Tech Café, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité des nouvelles technologies. Vous avez choisi d'écouter cet épisode pour vous tenir au courant de ce qui se passe et on vous en remercie. On pourrait peut-être même dire que c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité du coronavirus et de ses impacts sur le monde de la tech, parce que ça va faire une fois de plus l'objet de notre suivi d'actualité. Nous parlerons également du traitement de l'information et de la prévention des informations factices, qui ont des forts enjeux de société, les sujets parfaits pour nous prêter à l'exercice, le coronavirus évidemment, mais aussi évidemment la pédophilie et les primaires démocrates aux États-Unis. Désolé pour cette association de thèmes malheureuse. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la morosité et à la désinformation tech, ce qui est peut-être un vaccin pour combattre un virus, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume.
Salut. Donc ça veut dire que les anti-vax n'écouteront pas, mais écoute, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Oui, ils écouteront, mais ils seront pas d'accord. Ils te contrediront massivement dans les commentaires sur techcafé.fr.
Mais qu'ils fassent.
Ils sont les bienvenus. Nous serons également, et puis pour notre plus grand plaisir, également accompagnés par un chroniqueur historique de Tech Café, l'âme du groupe de discussion du podcast sur Telegram, qui travaille aujourd'hui d'ailleurs dans les équipes de l'application Transit, cofondateur de Frandroid et du groupe média qui lui est associé, c'est Pierre-Olivier Dillmann. Salut Pierre-Olivier.
Salut.
Grand plaisir de te retrouver pour cet épisode. On t'avait pas entendu depuis quelques épisodes. Je suis sûr que t'as l'occasion maintenant de réagir à plein de choses que t'avais peut-être sur le cœur quand tu écoutais.
Oui, on va revenir sur les 4 derniers épisodes. Et... Non, c'est pas vrai.
T'as des notes longues comme le bras. Bon, écoute, on va voir ça. En attendant, l'actualité de ce début de podcast, c'est encore et toujours les avis sur Apple Podcasts qui nous font toujours très chaud au cœur. Le dernier qu'on pourrait citer, c'est celui de Baramut1 qui a dit « Très bon podcast ». Il dit qu'il écouterait religieusement, oui, mesdames et messieurs, chaque épisode. C'est l'un des meilleurs podcasts sur iTunes et sur la tech. Mention spéciale sur les numéros domotiques qui me sont très utiles. Mon réseau Wi-Fi porte le nom de l'émission pour vous faire de la pub dans mon immeuble. Merci beaucoup, Baramut. Quelle belle idée pour promouvoir le podcast. Et il conclut en disant, bref, continuez à nous informer. Écoute, effectivement, merci beaucoup. Je vous annonce d'ailleurs avec grand plaisir que vous pourrez écouter un nouvel épisode de Tech Café Domotique dès cette semaine pour connecter encore un peu plus votre maison. Donc voilà, n'oubliez pas de partager partout l'arrivée de cet épisode, comme l'arrivée d'ailleurs de tous les épisodes du podcast, ça nous aide énormément. Tech Café est disponible en financement participatif sur Patreon, patreon.com/techcafé. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi de soutenir l'émission. Merci en particulier à Monsieur Finto, Gianluca Lucchesi et Vincent F. Merci infiniment pour votre participation et considérez, allez, que cet épisode de podcast, c'est un peu le vôtre. Durant les écoute des actus qu'on va traiter ensemble, venez commenter nos échanges et participer à la discussion, comme je vous l'ai dit, sur techcafé.fr. Et puis n'oubliez pas non plus de venir vous inscrire à la newsletter pour profiter du supplément du week-end. Je pense que là, vraiment, on a fait le tour de tous les incontournables qu'il ne faut pas manquer et qu'il est important de rappeler à chaque épisode. Et sans autre forme de procès, on peut donc relayer nos news avec une première news à chaud qui rebondit un petit peu sur ce qu'on avait abordé dans le dernier épisode. On avait dit que Twitter était la cible de rachat qui visait peut-être à influencer lourdement la façon dont fonctionne Twitter et peut-être même à pousser Jack Dorsey vers la sortie. Alors, Jack Dorsey est toujours à la tête de Twitter pour le moment, Guillaume.
Oui, incentive follow-up sur la news à chaud de la semaine dernière, donc c'est la news à chaud de cette semaine. Donc Jack Dorsey qui est dans le viseur d'Elliott Management, qui est un fonds vautour qui a investi suffisamment dans Twitter pour peser lourdement sur la gouvernance de l'entreprise. Une semaine plus tard, Twitter est arrivé à un compromis avec Elliott Management. Twitter va racheter pour 2 milliards d'actions et accueillir 3 nouveaux membres du conseil d'administration, Donc il y en a qui viennent d'Elliott Management et il y en a de Silver Lake Investment. Silver Lake Investment, c'est un autre gros fonds qui pèse quand même 42 milliards de dollars et qui va contribuer au rachat donc d'actions puisqu'il va contribuer pour 1 milliard de dollars au rachat. Bon, pour le moment, comme tu l'as dit, Jack y reste, mais le nouveau board va étudier sa succession et lui impose surtout des objectifs très ambitieux puisque c'est 20% de croissance de la base d'utilisateurs avec un boost du chiffre d'affaires et il faut aussi gagner des parts de marché en tant que plateforme de pub, quoi. Donc des objectifs qui semblent très difficiles à atteindre, encore plus sur une année où la bourse risque d'être très très chahutée. Bref, Twitter pourrait à terme changer de CEO quand même et voir se retirer du marché public. Parce que finalement, c'est ce que fait Silver Lake en général, d'après Scott Galloway, qui est prof à NYU. Et donc revoir en profondeur son business model, potentiellement. Donc je pense qu'il faut s'attendre à des changements notables avec Twitter dans les prochaines années, quoi.
Pierre-Olivier, est-ce que Twitter sera le même Twitter dans 6 mois, un an, grand max. Comment tu vois la suite des choses compte tenu de ce contexte un peu compliqué?
Il y a d'autres choses hein, aussi qu'on reproche à Jack Dorsey, c'est aussi son implication au sein de l'entreprise Square. Et c'est vrai que vu le profil des deux entreprises qui n'est ni proche ni complémentaire ni quoi que ce soit, c'est vrai que d'un point de vue investisseur ça peut être quand même assez difficile d'imaginer que le CEO partage son temps efficacement entre les deux entreprises donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est moi personnellement la plateforme Twitter, je la trouve tellement toxique que j'ai supprimé mon compte il y a maintenant plusieurs mois. Alors elle peut bien devenir ce qu'elle veut, j'ai beaucoup de mal à visualiser comment elle peut être pire aujourd'hui. En tous les cas, du point de vue des investisseurs, ce qui est important, c'est qu'elle ne ramène presque pas d'argent, puisque l'essentiel des revenus de Twitter viennent de la publicité, mais pas de la publicité sur Twitter. Faut bien comprendre qu'ils ont une régie publicitaire qui fonctionne de façon très traditionnelle en affichant du contenu sur des pages web et en plus effectivement des mécanismes de tweets sponsorisés mais qui pèsent pour une toute petite partie du chiffre d'affaires. Donc effectivement du point de vue investisseur, il y a beaucoup de choses à changer dans le fonctionnement de la plateforme.
C'est vrai que t'as quitté toi hein, Twitter, Pierre-Olivier, à titre perso.
Et tu oui, t'es c'était déjà mauvais plein... pour moi, pour ma santé.
Voilà, tu t'es déjà plaint de l'effet que ça avait sur toi. Alors, j'en profite très rapidement pour relayer le fait que les stories arrivent d'ailleurs sur Twitter. Hein. A priori, de toute façon, les stories seront partout, on l'avait dit avec Guillaume. Je vois pas quel canal n'aura pas ces stories, à part peut-être eBay, va savoir. Au passage, qu'est-ce qui, selon toi, Pierre-Olivier, ferait que tu pourrais retourner sur Twitter? Est-ce que t'es dans une démarche telle que, de toute façon, quand tu quittes un service comme ça, t'es pas prêt d'y revenir, ou est-ce qu'il pourrait pas y avoir des fonctionnalités clés, des garanties ou des fonctionnements du réseau qui pourraient faire que t'y retournerais? C'est rédhibitoire ou pas?
Bah, moi, il y a deux choses en fait. Il y a la population dont je faisais partie. Hein. Je veux dire, je vais donner pas mal de critiques négatives là, et bah, faut bien comprendre que je m'inclus là-dedans. L'audience active de Twitter, les gens qui participent aux conversations, sont toujours des gens qui ont des choses à revendiquer. Et ça, déjà en soi, ça me fatigue. Encore une fois, hein, oubliez pas, je m'inclus là-dedans. Donc, vous sentez pas personnellement attaqué là. Moi aussi, j'ai ce problème-là. C'est que j'ai beaucoup de choses à dire et que des fois, on dirait que je me sens investi d'une mission comme si ma vie allait changer, alors que en fait, rien du
c'est
tout.
Vrai, ouais,
c'est
vrai.
Et donc, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que le format aussi rend ces revendications extrêmement incisive en fait, parce que plus on doit condenser son message, ben plus on élimine. Bon, alors en premier les formules de politesse, c'est pas très grave. En deuxième, tout ce qui permet de nuancer un peu le propos, d'introduire du doute, de formuler des hypothèses en précisant qu'on n'est pas forcément expert. Ou bref. Ça devient en 140 ou en 280 caractères, ça a pas vraiment changé la donne, quelque chose un contenu qui est très acide en fait, qui est corrosif. Voilà. Donc c'est
on est dans la construction
deux choses
de la
punchline
vont... plus ouais. que dans la construction d'une info.
Absolument.
En fait.
Et donc pour moi, tant que ces deux éléments là changent pas radicalement, je vois pas vraiment de retour pour moi.
Bon, c'est assez structurant. Écoute, très bien. T'es pas le seul. Hein, j'entends beaucoup de retours sur la toxicité, effectivement, de Twitter. Je pense que ça peut être partagé. Il y a aussi de belles choses qui arrivent dedans, mais je crois qu'il faut une telle proactivité dans la qualité des échanges, dans la modération de son propre suivi et des gens qui interagissent avec nous que ça peut être très, très vite chronophage, effectivement. On va parler maintenant, une fois de plus, des impacts du coronavirus sur l'actu tech. Évidemment, on ne parle pas de tout le virus au sens large, mais c'est vrai que ça a de tels impacts et ça prend un tel poids dans l'actualité en général, mais plus concrètement aussi dans la manière dont ça bouscule toute l'actualité tech, que il faut quand même qu'on continue à en parler. C'est la suite, les nouvelles défections d'événements suite à l'arrivée de ce virus. Déjà, c'est Google I.O., hein, on l'avait... c'est tombé peu de temps après la sortie de l'épisode, Guillaume, la semaine dernière.
Oui, bah oui, nouvelle semaine et nouvelles annulations sanitaires. Donc, c'est les annulations sanitaires de la semaine. Oui, conférence tech et pas que d'ailleurs. Décidément, on n'en sort pas. Je sais pas si vous avez vu ça, mais le prix du meilleur jeu vidéo de l'année, c'est A Plague Tale.
C'est quand même. C'est pas Plague Inc.
C'est quoi Plague Tale? C'est un jeu PS4 qui se passe au Moyen-Âge, pas dans la peste noire.
D'accord.
Donc, c'est génial pour Asobo, hein. C'est un studio français, et bon, c'est très cool, bravo à eux, et c'est mérité, mais bon, voilà, dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est quand même presque un comble. Bref, en tout cas. Donc, on en parlait la semaine dernière, hein, la ville d'Austin annule le South by Southwest, le Red Hat Summit aussi, qui devait avoir lieu du 28 au 29 avril, est également annulé. Le Minecraft Festival aussi, qui devait pourtant se tenir en septembre. Et surtout, comme tu l'as dit, oui, c'est que Google qui annule sa Google I.O. Les devs Android ont donc un créneau libre du 12 au 14 mai, désormais. Donc voilà, Adobe a aussi annulé son Adobe Summit. Bon, par contre, cet événement, comme le Red Hat Summit d'ailleurs, a eu même peut-être une partie du SXSW, donc du South by Southwest, sera très probablement... très probablement virtuel en partie, quoi. Et peut-être moi aussi une partie de la Google I.O. On va entrer dans téléconférence, hein, on entre aussi dans le télétravail, puisque Apple, Google, Facebook demandent à leurs employés de limiter au maximum les voyages, voire de télétravailler, hein, puisque s'ils se sentent mal ou qu'ils ont des maladies chroniques ou plus incontents, LinkedIn aussi d'ailleurs déconseille les voyages. Et demande même à tous ses employés de rester chez eux. Il faut dire que toutes ces boîtes sont dans le comté de Santa Clara, qui compte déjà plus d'une trentaine de cas. Et c'est pas forcément mieux ailleurs, hein, puisqu'à Seattle, il y a un employé d'Amazon qui était testé positif, et donc le télétravail devient la norme chez Microsoft aussi, hein, au moins jusqu'au 9 mars. Donc la région est touchée aussi. Alors je sais que t'étais allé à la Google I.O., Pierre-Olivier, t'avais pris tes billets, tu vas être remboursé, j'espère.
Alors, cette année, je comptais pas y aller.
Ça tombe bien.
Mon cousin m'a envoyé une chaîne de mail, qui disait que justement ça allait arriver. simplement cette année ça rentrait pas dans mon calendrier, donc je suis assez chanceux. Les billets d'avion sont très mal remboursés. Je peux le confirmer parce que j'ai des collègues par contre qui avaient déjà pris leurs billets d'avion parce qu'ils sont impliqués dans les Google Developer Group et donc ils savaient qu'ils auraient leur place à Google I.O. La seule astuce qu'on peut avoir en fait c'est de déplacer ses billets d'avion plusieurs fois dans le futur jusqu'à l'année prochaine. C'est à peu près le seul truc qu'on peut faire de malin, mais on peut pas se faire rembourser quoi que ce soit.
Alors tu parles des billets d'avion justement, Pierre-Olivier, je ne sais pas si vous avez vu cette news passer, mais c'est assez édifiant les effets que ça peut avoir sur notre société. En fait, je trouve que ce virus, de plus en plus, moi, me permet d'avoir des clés de lecture sur notre vie en société qui est assez dingue. On a des compagnies aériennes qui se retrouvent obligées, alors c'est le Sunday Times hein, qui a relayé ça, des compagnies aériennes qui font voler leurs avions mais à vide, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de passagers du tout, ils continuent à faire voler les avions parce que
juste pour garder leur créneau là.
Voilà, c'est ça. C'est en gros, c'est tant qu'ils volent pas aux créneaux qui leur sont réservés, ils risquent de les perdre. C'est un peu c'est un peu qui va à la chasse perd sa place et ils préfèrent faire tourner leurs avions à vide plutôt que de perdre leur place. Donc c'est évidemment
mais c'est pas grave, le pétrole a jamais été aussi bas depuis 91.
Mais c'est tellement débile en plus parce que c'est pas elles font les compagnies aériennes font pas juste ça cyniquement il y a Jérôme à la compta et il dit hop attends on paye des pénalités si on décolle pas et au bout de 10 non décollages on perd le slot. C'est les compagnies aériennes depuis plusieurs semaines ont demandé massivement à l'OSI, l'organisation de l'aviation, c'est en anglais. Bref, l'Organisation internationale de l'aviation civile, dont le siège est à Montréal, de mettre en pause ce règlement qui permet effectivement aux aéroports de s'assurer que les compagnies aériennes respectent les horaires de décollage, d'atterrissage, etc. Et qui prévoit un certain nombre de pénalités. Donc ça a été demandé hein, qu'on mette en pause ce système-là pour justement éviter de faire voler des avions à vide. Mais il semblerait qu'à l'OACI, se réunir... c'est pas trop prévu, travailler, faire des trucs, répondre aux mails, ça a pas l'air d'être vraiment la norme, et donc rien n'a bougé, il n'y a pas eu une réponse, hein, c'est ni négatif ni positif, voilà. Donc pour le moment les compagnies aériennes font voler les avions à vide.
Alors, on en profite d'ailleurs, on va, c'est une petite parenthèse, parce que bah, là, en tout cas, en France, on voit un petit peu comment ça évolue en termes de contexte de travail et des impacts que ça peut avoir sur le quotidien. Vite fait, d'ailleurs, Pierre-Olivier, toi qui travailles au Canada, comment ça se matérialise l'arrivée de ce virus? Est-ce que ça a impacté le quotidien pour vous?
Bah, déjà, moi, en ce moment, je suis en France et en congé, donc j'ai pas vraiment.
Tu baignes pas dedans, voilà, mais tu sais pas si tu vas pouvoir.
Je suis pas directement impacté. Et puis, de toute façon, pour le moment, au Canada, il y a pas beaucoup de cas. Il y en a 77 avec un premier mort hier ou aujourd'hui, si je suis à jour dans mes statistiques. L'immense majorité des cas sont concentrés en Colombie-Britannique, donc à l'ouest, Vancouver, et en Ontario, particulièrement à Toronto. Donc pour le moment au Québec, c'est pas tellement un sujet. Cela dit, je pense qu'on est quand même plus en avance en termes de capacité de travail à distance que la France, pas pour des raisons technologiques, mais plus pour des raisons culturelles. Chez nous, les blagues genre « Oh, tu pars à 5 heures, t'as posé ta journée », ça n'existe pas. Et donc, le préjugé selon lequel, quand on est en télétravail, c'est qu'on fout rien, il n'existe pas non plus. Alors, je sais bien, je suis bien conscient que c'est de moins en moins vrai en France aussi, mais je pense, et je m'appuie sur rien, donc si je me trompe, dites-le-moi dans les commentaires, mais je pense sincèrement que ce sera c'est pas autant un problème. Je pense qu'il y a plus d'entreprises qu'ont l'habitude d'avoir des employés tout le temps ou ponctuellement en télétravail. Nous, en tout cas, dans notre cas, on a un employé qui travaille en ce moment depuis l'Argentine. On a quelqu'un qui est en permanence en Palestine. Et on a plusieurs personnes qui sont de façon ponctuelle mais régulière en Europe. Bon, voilà, de notre côté, nous, on est quand même pas mal organisé pour bosser à distance.
Dites-nous dans les commentaires, effectivement, ce serait assez intéressant d'avoir un petit peu vos différents retours, si tant est que vous témoigniez effectivement d'une appropriation du télétravail où que vous soyez, ce serait hyper intéressant d'avoir vos petits retours. Bon, et ben ce virus, en tout cas, on voit les impacts qu'il a, et puis ben on se rend compte à quel point il y a encore beaucoup de boulot en matière de santé pour arriver à affronter ces ennemis intérieurs. Une petite news qu'on peut mettre en parallèle, c'est celle d'Amazon qui est en train de développer, et ben ni plus ni moins, a priori d'après les rumeurs et les informations qui auraient fuité, un vaccin contre le rhume, Guillaume.
Oui, bah alors c'est pas moi qui ai mis la news, mais effectivement.
C'est moi en plus, je te la rebalance, mais c'est moi.
Donc oui, effectivement, il serait en train, c'est un laboratoire secret plus ou moins qui serait en train d'essayer de trouver un vaccin contre le rhume. Alors bon, honnêtement, je sais pas du tout où ils en sont, ça reste vraiment très secret. Et pourquoi ils le font, je suppose parce que ça coûte trop cher, tu vois, c'est toujours pareil. Mais c'est le mec qui était à Google X qui est en charge d'une espèce de moonshot, mais cette fois chez Amazon. Donc il y aurait une recherche d'un vaccin contre le rhume. Bon, je sais pas. Moi, il me semblait qu'il y avait plein de rhumes différents et que c'était super compliqué. Donc je sais pas trop comment prendre ce truc, très honnêtement.
Il y a plein de rhumes différents, mais ceci dit, en Amérique du Nord, les deux tiers des rhumes sont des coronavirus. Alors pas la souche dont on parle tant en ce moment, hein, mais du coup les deux tiers sont quand même d'origine virale et en plus de la même famille. Donc c'est potentiellement faisable quand même.
Ouais, ils disent qu'il y a 160 souches connues et que c'est des trucs qui mutent quand même pas mal. Donc
écoute. Ah bah il y a de grandes chances. Bon, là, je suis pas médecin, hein, mais effectivement, il y a de grandes chances que ça soit comme la rhume. Ouais. Parfait. Comme la grippe où il y a un vaccin tous les ans, mais c'est pas forcément le bon quoi. Genre cette année par exemple. Si vous êtes vacciné contre la grippe, vous n'êtes pas vacciné contre la bonne souche grippale de cette année. Voilà.
Effectivement,
c'est mon message informatif de ce soir.
Il y a des choix, effectivement, de protection de souche pour le vaccin contre la grippe chaque année. Effectivement, si on est vacciné, on n'est pas forcément vacciné contre la souche qui nous est exposée dans la saison qui arrive. Alors, il y a quelqu'un qui a pas trop peur, qui garde la tête, a priori, très froide par rapport à tout ça, c'est Elon Musk. Donc, ils ne sont pas très nombreux, je crois, hein, les responsables d'entreprises à s'exprimer par rapport à ça, mais il y a évidemment Elon Musk qui en profite et qui lui n'a pas vraiment peur et qui considère même que la viralité de Covid-19 là est surestimée. On peut citer son tweet, hein, en raison de la confusion, alors tenez-vous bien, il est important de le citer, est surestimée en raison de la confusion entre la date de diagnostic et la date de contraction et en raison d'une extrapolation excessive de la croissance exponentielle, ce qui ne correspond jamais à la réalité. Bon, c'est une traduction hein, qui est proposée par Sputnik News, donc qui est volontairement peut-être pas très très claire, mais il conclut en disant « Continuez d'extrapoler ainsi et le virus dépassera la masse de l'univers connu. » Moi, personnellement, j'ai rien compris. Est-ce que vous avez compris quelque chose au tweet d'Elon Musk?
Bah, écoute, ce qu'il veut dire, c'est il faut pas exagérer peut-être. Voilà, s'il veut dire globalement, c'est que on ne sait pas parce que effectivement les chiffres, surtout en début d'épidémie, fluctuent tout le temps et que c'est quand même extrêmement compliqué, quoi. Tu vois, le taux de mortalité, bon, on le connaît pas encore. Pourquoi? Bah parce que en fait, c'est difficile de le savoir. Il faut connaître le nombre de gens infectés, le nombre de gens qui vont mourir. Pour ça, il faut faire des tests. Le problème, c'est quand tu fais des tests, comme tu peux pas tester tout le monde, parce que c'est ça le principe de base, tu peux pas tester tout le monde. Donc, tu testes qui? Tu testes le maximum de gens. Si tu testes pas assez de gens, ça va pas être assez fiable. Mais si tu testes les gens, tu testes qui? Tu testes les gens qui ont des symptômes plus graves ou des gens qui ont tous les symptômes ou presque pas de symptômes, tu vois, ça dépend. Par exemple, si tu testes que, ou préférentiellement, les gens qui ont des symptômes les plus graves, ben alors, tu vas avoir une mortalité plus grande, puisque parmi les gens qui ont des symptômes plus graves, il y en a plus qui vont mourir que parmi les gens qui ont des symptômes qui sont bénins, tu vois ce que je veux dire? Donc, non seulement, pour avoir la létalité, il faut avoir une bonne estimation il faut tester beaucoup de monde, il faut avoir beaucoup de tests, mais en plus ça dépend non seulement du nombre de tests mais aussi de qui tu testes, donc c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des fluctuations qui sont énormes entre les pays, entre l'Italie et la Corée du Sud ou même la France. C'est extrêmement difficile de connaître la létalité du virus actuellement.
Par exemple, c'est les États-Unis où le taux de mortalité est deux fois supérieur à partout ailleurs dans le monde.
Ouais, et puis même en Chine, si tu regardes le nombre total en Chine, c'est un nombre qui est, je sais pas, doit être autour de 3%, un truc comme ça. Si tu regardes par province, ça a absolument rien à voir. Par exemple, c'est 1,7% pour le Henan, c'est 0,5% pour le Guangdong, et c'est même 0,08% pour le Shenyang. Donc ça veut dire que globalement, on est très 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 loin de l'ensemble du pays qui est à 3,8, ou à que l'Iran qui est à 2,5, la France qui est à 0,65, tu vois, comme la Corée du Sud d'ailleurs. Moi, le taux de mortalité, c'est difficile de voir. Alors bon, moi, pour me faire une idée, alors peut-être que c'est une erreur, mais j'aime bien regarder le cas du Diamond Princess. J'ai peut-être tort d'y accorder trop d'importance, parce que c'est vrai que c'est pas un gros échantillon statistiquement, mais bon, on me dit rien. Le bateau, c'est quand même un vase clos, où le nombre de contaminations est, je pense, du coup, plutôt fiable. Donc on sait qu'il y avait 3711 personnes sur le bateau, on sait qu'il y en a 706 qui ont été infectées, et jusqu'ici, il y en a 7 qui sont morts. Alors c'est vrai que ça pourrait augmenter, hein, parce qu'il y a des gens qui sont encore malades, mais à mon avis,
non, je crois qu'il y a plus
pas des masses.
Cas actifs, hein.
Bah, de toute façon, ça pourra pas augmenter tant que ça, puisque l'infection s'est déclarée il y a un bon mois. Donc, c'est-à-dire qu'elle a eu le temps, je pense, on a du recul, quoi. Et donc, ça nous donne d'aller 1% de létalité. Et en plus, même si j'ai pas le détail, je soupçonne que la moyenne d'âge d'un bateau de croisière, c'est quand même assez élevé. Donc, il n'y a pas de biais vers les jeunes, tu vois, parce que ça aussi, hein. Si la population est âgée, la létalité va être plus importante. Donc, ce chiffre pourrait être même limite surestimé par rapport à la population générale. Bon, c'est à vérifier, si possible, je sais pas. Donc, peut-être que l'avenir me donnera tort, mais moi, j'ai plus l'impression qu'on est vers les 1% que vers les 3,4. Cela dit, ça varie énormément aussi avec l'accès aux soins. Tu vois, même à 1%, évidemment, si t'as un système de santé qui marche bien, la létalité va être inférieure à un pays dans lequel le système de santé va être engorgé ou de mauvaise qualité. Bon, cela dit, 1%, c'est 10 fois plus dangereux que la grippe quand même, hein, donc c'est sérieux. Il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est vraiment dangereux. Donc, faut les protéger en ayant les bonnes pratiques. Et donc, il faut être sérieux, il faut prendre ça sérieusement, mais voilà, sans exagérer. Et bon, c'est vrai qu'on voit énormément de trucs sur Internet et sur Twitter en particulier, hein. Guillaume, tu me montrais un truc, un tableau que je vais pas rentrer dans les détails, ça sera sans doute trop long, mais bon, qui est complètement, enfin, avec des chiffres complètement absurdes, et je vois plein de trucs, par exemple, je vois beaucoup de comparaisons du coronavirus avec la grippe espagnole. Et c'est absurde. D'abord, c'est pas le même virus, hein. La grippe espagnole, c'est du H1N1, et ils sont très différents. La grippe espagnole, c'est très largement plus contagieux, ça tuait préférentiellement les sujets jeunes, d'ailleurs, hein, contrairement au coronavirus. Et puis le nombre de morts qui était donc élevé, incroyablement élevé, et qui fait très peur, puisqu'il y a quand même au moins 50 millions de morts de la grippe espagnole, ben c'est parce que tout le monde l'a eu quasiment. Sa contagiosité était telle que 50 à 70% des gens l'ont eu. En comparaison, Covid-19, là, il se transmet moins bien que la grippe saisonnière. Et donc, et apparemment, il n'y a pas de contamination asymptomatique, il n'est pas aérosol. Bon. Donc ensuite, ça s'est passé en 1918, avec la médecine de 1918, qui a fait quelques progrès depuis, quoi. Et après une guerre qui a laissé les pays complètement exsangues. Donc les habitants étaient affamés, affaiblis. Donc la situation, elle n'a rien de comparable.
Et un contexte social d'intense propagande, avec beaucoup de pays qui étaient certainement pas prêts à dire aux gens en fait les soldats là qui reviennent vous allez pas les revoir tout de suite parce qu'on va les mettre en quarantaine. C'était absolument pas imaginable, et la raison d'ailleurs pour laquelle on appelle la grippe espagnole alors qu'elle est partie de Boston, c'est justement parce que l'Espagne était plus ou moins le seul pays à communiquer sur ces chiffres j'allais dire en temps réel. Alors évidemment, en temps réel, c'était pas comme aujourd'hui avec un spreadsheet que tout le monde actualise, hein. Mais c'était les seuls qui communiquaient de façon à peu près transparente. Et donc on avait l'impression sur le moment que c'est eux qui se tapaient tous les morts. Alors qu'en fait, simplement, la propagande cachait un petit peu le sujet dans la plupart des pays européens.
Pas tous les cas, ouais, ben voilà, non, mais exactement. Donc voilà, en gros, il faut comparer ce qui est comparable, et voilà, la crise actuelle est en rien comparable à la situation de la grippe en 1918. Tu as raison, on l'appelle la grippe espagnole en France, mais on l'appelle la grippe française en Espagne, c'est quand même assez cocasse. Bon, voilà, donc soyons sérieux avec ça, mais faut pas exagérer, quoi.
Bon, à l'inverse, je pense qu'il y a aussi beaucoup de prudence de la part des gouvernements qui veulent pas non plus voir débarquer des masses de personnes pour des raisons légitimes ou illégitimes en tout cas, mais en tout cas de flux de patients qu'on peut pas traiter.
Non, mais donc, c'est très bien si tu veux d'essayer de limiter la...
choses, de freiner,
oui,
comme disait
le ministre. Oui, limiter la propagation, c'est toujours bien, parce que c'est toujours bien de préserver le système de santé, ça c'est toujours bien.
C'est ça que j'allais dire, hein, d'une façon générale. Les différents gouvernements actuellement, ce qu'ils essayent de préserver, c'est la capacité du système de santé, parce qu'on parle beaucoup du taux de mortalité, mais on oublie aussi de parler du nombre de cas qui nécessitent des soins intensifs et des séances et de passer au bloc de réanimation. Et ça coûte beaucoup, parce que des blocs de réa, on n'en a pas des milliers, et donc nécessairement, s'ils sont monopolisés pour ce virus, ils sont pas disponibles pour les accidents de la route, ils sont pas disponibles,
tout à fait, ça
etc. Et bref, l'idée de retarder le plus possible la contamination d'une masse non gérable de gens, c'est de pouvoir lisser en fait la contamination et préserver les capacités de réponse des hôpitaux, hein, tout simplement.
Ouais, tout à fait. C'est pour une capacité à gérer les besoins qu'il y a habituellement dans un système de santé qui sont incompressibles, quoi, malheureusement. Allez, on se retrousse les manches et on se retourne un petit peu vers le cœur de notre tech. Même, on va se tourner un petit peu vers les jeux vidéo, mais toujours un petit peu sur les impacts, parce que, alors, c'est malheureux, mais on a la TurboGrafx 16 Mini qui est différée, Guillaume.
Et oui, Covid-19 fait dégringoler le cours du pétrole et plonge les bourses dans l'angoisse, mais il y a plus grave encore, hein. Il va retarder le lancement de la TurboGrafx 16 aux États-Unis. Alors si ça vous dit rien, la TurboGrafx 16, c'est la PC Engine, qui est très populaire au Japon, enfin qui a été très populaire au Japon, au temps de la NES, a été sa rivale, et de la Mega Drive aussi, et elle est sortie en France de manière à peu près confidentielle, sous licence SodiPeng. Et bon, bah là, elle est sortie aussi relookée, hein, aux États-Unis sur le nom de TurboGrafx. Parce que oui, les Américains veulent des grosses consoles avec des turbos dans le nom, sinon c'est pas assez badass, ils n'achètent pas. Donc la TurboGrafx Mini, c'est la première console à être portée sine die, puisqu'on ne sait pas quand elle va sortir. Qui plus est, la Switch est en rupture au Japon, le Quest va se faire rare. Alors évidemment, la question inévitable, c'est et la PlayStation 5 et la Series X. Il faut dire qu'il y a un tweet de Lux Defense qui aura un pote chez Sony, qui évoque un retard de la présentation qui aurait déjà dû avoir lieu et un lancement reporté de la machine. Ce qui est plausible, mais pas certain, évidemment. Sony devra s'exprimer d'ici fin mars, de toute façon, normalement, il serait temps. Mais pour le coup... Michael Pachter, lui, se veut rassurant, hein. Si Apple craint, parce que lui, il n'a pas d'alternative de production à la Chine, globalement, c'est différent pour les consoles qui peuvent produire ailleurs, enfin les consoliers peuvent produire ailleurs, et même si c'est un petit peu plus cher, le cas échéant. Donc si la situation reste bloquée jusqu'en juin, alors oui, il va y avoir des retards. Mais d'ici là, il est probable que les consoliers auraient pris leur disposition et activé d'autres chaînes de production par sécurité. Et donc, le lancement de nouvelles consoles, pour le moment, ne semble pas être en danger. Ouf, parce que bon, c'est vrai qu'il va quand même bien falloir s'occuper en quarantaine.
Les gamers respirent effectivement en quarantaine. On va pas faire que du Netflix. Si on pouvait faire un peu de jeux vidéo, ce serait pas mal. Ou des travaux, selon la situation dans laquelle vous êtes. Dans mon cas, ça, j'aimerais bien. Ça me permettrait de monter quelques cloisons. En attendant, on avait déjà parlé du traitement de cet événement, et ça va clore un petit peu cette rubrique, par les géants de l'information de type social media, de Google, de Facebook, d'Instagram, etc. YouTube a pris acte de cet événement et a annoncé assez rapidement qu'il démonétisait toute une série de vidéos qui comprenaient pas mal de termes, Guillaume.
Oui, bah, de toute façon, c'est devenu un sujet sensible. Le coronavirus est devenu un sujet, par définition, sensible, solo YouTube. Donc, ça concerne les événements d'actualité sensibles, les sujets controversés, les crises sanitaires internationales, les décès, les événements tragiques. Bon, globalement, ça s'applique plutôt bien au coronavirus. Et donc, ça veut dire que c'est démonétisé. Donc, les gens peuvent parfaitement faire des vidéos qui parlent de ça, avec des mots-clés dedans, pas de problème. Seulement, bah, ils gagneront pas d'argent dessus. Alors, évidemment, les YouTubeurs sont pas très contents, parce que, voilà, c'est toujours un manque à gagner. De notre côté, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une erreur de considérer le coronavirus comme quelque chose de sensible sur lequel il faut pas dire n'importe quoi et sur lequel on peut pas capitaliser surtout. Enfin, moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise décision, quoi.
Pierre-Olivier, quelle est ta perception des choses? Moi j'avais l'impression quand même que les grands acteurs qui nous permettent d'accéder à l'information en ligne faisaient un plutôt pas trop mauvais travail compte tenu des circonstances de ce virus, de cette crise. Est-ce que tu partages mon sentiment? Est-ce que tu as l'impression qu'ils font peut-être même mieux que pour d'autres problèmes, pardon?
C'est un peu une question orientée.
J'avoue. Retour là si tu le souhaites.
Je suis un peu partagé parce que il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels il y a une évidente surreprésentation, soit de fausses nouvelles, soit de discours toxiques et qui sont potentiellement illégaux dans beaucoup de juridictions. Mais sur le sujet de cette épidémie, moi je consomme beaucoup de YouTube et j'ai pas eu l'impression qu'on était dans un bain de désinformation. En tout cas sur YouTube, sur Facebook c'est très différent, et même sur certains journaux qu'ont une bonne vitrine, hein, mais sur YouTube j'ai trouvé que la plupart des vidéos que je voyais c'était des discours très mesurés, souvent extrêmement bien sourcés. Alors j'imagine que s'il y a une réponse de la part de YouTube, c'est que je filtre trop bien mon YouTube et que j'ai pas vu les vidéos un peu pourries sur le sujet, mais moi j'avais là quand je lis les nouvelles, j'ai l'impression que on est un petit peu dans la démesure, que la plupart des vidéos qui ont pour sujet le Covid-19 sont pas du tout problématiques et méritent d'ailleurs pour la plupart d'être monétisé. Il y a beaucoup de YouTubers qui sont dans la vulgarisation scientifique, etc. Donc je sais pas, je suis un petit peu partagé, et en même temps, de toute façon, c'est sûr que si on applique stricto sensu le règlement, effectivement, voilà, ça fait partie des sujets sensibles, comme Guillaume l'a souligné, et il n'y a pas de raison que celui-là soit une exception. Cela dit, de toute façon, depuis le début des problématiques des réseaux sociaux et des plateformes de diffusion comme YouTube, la vraie réponse qu'il devrait y avoir, c'est que ces plateformes-là devraient appliquer les lois de chaque pays. Et en l'occurrence, si on se place sur le spectre français ou québécois, parce que les lois sont très similaires, c'est pas du tout illégal de faire de la vulgarisation scientifique sur une épidémie même en cours, même en ayant un discours un petit peu alarmiste, ou au contraire en ayant un discours un petit peu trop à la légère, c'est pas illégal. En revanche, l'appel à la discrimination en raison de l'appartenance religieuse ou ethnique, ça c'est illégal. Et pour autant, YouTube, ça a mis vraiment beaucoup de temps pour qu'ils réagissent sur ce genre de sujet. Et c'est D'ailleurs, toujours pas vraiment bien pris en charge, hein, parce que démonétiser, c'est cool, mais la vidéo, elle est toujours là. Hein.
Ouais, bien
bref, voilà, je suis un peu circonspect sur ce truc. J'ai un peu l'impression que c'est deux poids, deux mesures, alors que pourtant, en l'occurrence, c'est justement la même mesure pour tout le monde, mais ouais, je trouve ça un petit peu ambigu, et je pense que de toute façon, en vrai, à partir du moment où ils font quelque chose de mondial, que la réponse est mondiale, ben ça marchera jamais vraiment complètement pour moi.
Ouais, une des raisons pour lesquelles aussi tu peux ne pas avoir vu trop de vidéos, je pense, sur YouTube qui menaient à de la désinformation, c'est que la décision de YouTube de démonétiser les vidéos qui touchent à ces sujets-là, elle a été prise très très tôt, hein, cette décision, si je dis pas de bêtises, il y a plus d'un mois qu'ils ont déjà pris cette décision, et j'arrive à me dire aussi que ça peut avoir créé un contexte d'avertissement très clair, et moi j'ai tendance à te rejoindre sur le fait que finalement c'est peut-être plus facile à faire pour le Covid-19 qui arrive là, qui est un sujet que le monde entier voit venir, et on sent que ça va être un sujet sur lequel il va pas falloir se rater, alors qu'il y a d'autres sujets qui seraient plus sujets à critique. Alors, c'est parfait, ça nous permet d'enchaîner sur une autre rubrique, parce qu'on va continuer à parler du traitement de ces sujets-là par ces plateformes, et en particulier YouTube, tu as identifié, Guillaume, qu'il recommandait moins de vidéos complotiste.
Mais oui, ils nous muselent, ils veulent nous faire taire, voilà, c'est ça. Il y a une étude de Berkeley qui montre que YouTube recommande environ 40% de vidéos complotistes en moins depuis janvier 2019. Dont ceux de la Terre plate et celles relatives à l'état profond, le truc si le QAnon et compagnie, là. Donc ils ont regardé 8 millions de recommandations, et ils ont entraîné des algos pour déterminer si ces vidéos étaient de nature complotiste via leur description, via les commentaires, les titres aussi, puis les transcriptions, puisque c'est maintenant automatisé. Et sur les 15 premiers mois, les platistes et ceux qui pensent que le 11 septembre était un complot en ont été pour leurs frais, les pauvres, hein, avec 70% de recours en moins. Aujourd'hui, néanmoins, en prenant en compte la popularité des vidéos, elles sont seulement 40% moins courantes. Et que d'autres, bon, y a aussi d'autres types de bullshit, hein, comme ceux des massacres de masse, par exemple. Donc les conspirations sur les massacres de masse, comme Sandy Hook, ou bien des trucs plus farfelus, hein, que YouTube n'a pas dans le viseur, qui continuent de se porter plutôt bien. Donc oui, YouTube fait des efforts, mais en vrai, c'est loin d'être suffisant. Il est très difficile de dire si ça a d'ailleurs réduit même un minimum l'impact de ces vidéos, hein, les effets de ces vidéos. Alors évidemment, c'est sans doute difficile, hein. Il faut peut-être plus de nerfs. Hein. On se souvient du gros scandale de pédophilie soft sur YouTube l'an dernier, où dès la première recherche, un algo te proposait une liste sans fin de petites filles qui faisaient de la danse ou de la gymnastique et qui mangeaient des glaces, voilà, ce genre de choses. Bon, YouTube avait fermé les commentaires sur des milliers de vidéos, mais je sais pas si un an plus tard, c'est vraiment résolu. D'ailleurs, d'après ce qu'on va évoquer tout de suite après, j'ai pas l'impression.
Ouais, justement, on peut continuer à enchaîner sur des thèmes qui sont un petit peu compliqués. Je le dis en intro, hein. On va associer plusieurs thèmes qui sont les sujets relayés par les plateformes qu'il est un peu difficile d'associer. Alors on a parlé de complotisme, quid de la pédophilie, Guillaume?
Oui, en matière de pédophilie, le département de justice américain, avec les gouvernements australiens, anglais et canadiens, donc c'est les Five Eyes, il me semble, ont publié des bonnes pratiques pour contrer la pédophilie en ligne, en collaboration avec donc Facebook, Reddit, Google, Microsoft, Twitter et Roblox, et Snap aussi. Et donc, il y a 11 principes pour lutter contre le grooming, le partage de matériel porno, le live streaming, ne pas faciliter la recherche de contenu, etc. Le grooming, c'est quand un adulte se fait passer pour un gamin, pour interagir avec des gamins et voir, les attirer, quoi. Donc, d'autres compagnies ont déjà des outils, bien sûr, hein, dont certains sont en ligne et open source, d'ailleurs. Mais bon, au-delà de cette initiative volontaire, les acteurs de la tech et d'autres politiques aussi veulent aller plus loin en mettant en place un système qui soit punitif. Donc, il pourrait avoir des conséquences collatérales assez importantes. Donc, il y a 4 sénateurs qui sont très contents du titre de leur proposition de loi, oui. Hein, puisque...
Jean-Michel l'acronyme a encore frappé.
La loi, c'est « Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies » et ça fait « Earn it », donc soit « Gagne-le », comme « Gagne notre confiance », tu vois. Je sais pas s'ils ont embauché des communicants pour trouver ça, mais je suis sûr qu'ils pensent qu'avec leur loi a un trop bel acronyme pour pas être adopté, quoi, c'est pas possible, franchement. Donc bon, alors, les plateformes de manière volontaire, hein, volontaire, vont devoir se conformer à de bonnes pratiques en matière de protection de mineurs et de contenu pédo, quoi. Or, dans ces bonnes pratiques, il y a quand même l'obligation de trouver et d'éliminer le contenu problématique. Donc sans ça, la plateforme en question, elle va perdre la fameuse immunité de la section 230, qui exonère donc les plateformes de la responsabilité de ce que postent leurs utilisateurs. Earn it, c'est donc mériter, en gros, la protection de la 230, qui cesse d'être une garantie absolue, hein, c'est une entaille dans le Communication Decency Act, donc qui est déjà lourdement en question en outre, et qui a déjà Ce qui est assez inquiétant hein, pour à peu près tout le monde, puisque c'est le web s'est littéralement construit là-dessus, hein, sur cette loi-là. Et d'ailleurs, notez bien que le SESTA-FOSTA était déjà une érosion de la 230 sur le commerce sexuel. Mais là, en plus, il y a un problème technique en perspective, puisque tout enlever, ça suppose que ça soit techniquement possible. Or, si le contenu est chiffré sur les serveurs, comment tu fais ? Donc, pour l'Electronic Frontier Foundation, c'est pas un hasard. Hein, le texte utilise l'exploitation des gamins pour viser en réalité le chiffrement dans son ensemble, qui deviendrait de fait inutilisable, à moins d'y introduire une backdoor, donc un affaiblissement systémique en fait qui hérisse le FF et aussi la CLU, donc l'American Civil Liberty Union et d'autres parties et même d'autres hommes politiques comme Ron Wyden par exemple, qui trouvent la méthode cynique, je cite. Donc les firmes tech aussi sont critiques évidemment, donc elles offrent de retravailler le texte. En gros, que ce soit avec ce gouvernement ou avec le prochain gouvernement, parce que les élections arrivent, la législation américaine pourra évoluer et changer pas mal de choses dans la tech ces prochaines années.
Et c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'on suit aussi ce qui se passe au niveau des élections aux États-Unis, des élections présidentielles. Et en ce moment, en plus, c'est assez passionnant de suivre ce qui se passe pour les primaires démocrates. Il y a des défections en série. On sent que les prétendants à la candidature se réduisent comme peau de chagrin. Et on a un duel qui se profile, Guillaume.
Ben oui, les primaires américaines continuent, et après Buttigieg et Klobuchar, c'est au tour de Warren et Bloomberg de quitter la course, donc il reste que Bernie Sanders et Joe Biden en lice, donc la débâcle de Bloomberg, ça montre que même 250 millions de dollars en pub, en particulier sur les réseaux sociaux, donc ne suffisent pas à se faire élire à une primaire, ce qui en soi peut être vu comme une bonne nouvelle, quelque part. Bon, autre bonne nouvelle, Bloomberg qui soutient Joe Biden met Hawkfish, la boîte de communication politique qu'il a montée pour les primaires au service du Parti démocrate du coup, hein, et ainsi que ses fonds. En fait, c'est pas directement Hawkfish, mais bon, Bloomberg va fonder une nouvelle structure pour financer la machine de guerre de com, une grosse machine de com numérique qui sera sans doute à la hauteur de celle de Trump, hein, puisqu'il est en train d'en mettre en place lui aussi, évidemment. Donc avec Bloomberg, Biden, s'il est le candidat final, hein, sera peut-être à armes égales avec Trump, médiatiquement parlant. Bon, mais après, il y a Bernie, hein, on ne sait pas, donc Bernie dépense pas mal aussi quand même, 18 millions de dollars jusqu'à maintenant. Je me prononcerai pas sur les chances de l'un et de l'autre, hein, mais avec Warren hors course, les GAFA peuvent peut-être souffler ou pas, on ne sait pas trop. Puisqu'on sait que Warren avait annoncé un démantèlement s'il avait été élu des GAFA, en particulier de Facebook, etc. Et donc Google, aujourd'hui, le candidat le plus radical, évidemment, c'est Bernie Sanders. Il est farouchement antitrust, d'ailleurs, tech ou pas tech. Donc secteur banquier, pharmaceutique, hein, c'est autant, ils ont autant toute son attention qu'Amazon ou Facebook, hein, Amazon ou Facebook, qu'il avait déjà évoqué comme des monopoles. Donc s'il était élu, pas sûr qu'ils soient moins tendres que Warren, en fait. Hein. Mais bon, Joe Biden, qui est plus modéré, lui, il n'annonce rien de semblable. Sauf qu'il a un contentieux personnel avec Facebook, on le sait, et donc s'il est élu, la politique de Mark Zuckerberg de « c'est pas à nous de décider » en matière de pub, par exemple, pourrait être largement mise à mal. Quoi. Bon, Biden ne semble pas enclin à démanteler qui que ce soit, pour le coup, mais par contre, une nouvelle régulation en matière de fake news et de pub en ligne serait probable, ou même des révisions de la 230 aussi, donc voilà, il est bien possible que voilà, il y ait des gros changements qui s'amorcent en 2021, sans doute moins avec Biden qu'avec d'autres, mais bon, il y a quand même des républicains anti-chiffrement, donc tout de même, ça risque de bouger.
Pierre-Olivier, tu suis un peu ce qui se passe justement dans le cadre des primaires. Enfin, j'ai l'impression que ça passionne un petit peu dès qu'on se passionne un petit peu sur l'univers de la tech, parce que ça touche forcément des grands mouvements qui peuvent avoir lieu. C'est un truc que tu suis un petit peu de ton côté?
Ouais. Et puis bon, je suis toujours un peu consterné sur le déroulé, parce que on parle des conséquences sur le secteur tech, mais on pourrait aussi s'attarder sur comment la tech pourrait aider à la vie démocratique, et quand on voit comment le Parti démocrate compte les votes pour les candidats à la primaire sur les caucus de certains États, c'est un petit peu désespérant de
comment de simplicité. J'ai pas évoqué la débâcle au caucus.
C'est tellement absurde, parce que à la fois c'est une solution tellement simple et rustique que tu te dis au moins on peut pas se tromper. Et puis ils arrivent quand même à se planter.
Donc, comment ça marche, et éclairer ma lanterne, je suis pas sûr.
En gros, il y a une salle et puis les mecs ils doivent marcher jusqu'à leurs copains et après ça on compte les groupes. Mais comme on n'est pas sûr du chiffre, après ils ont commencé à compter les nombres de places dans les bus. Enfin, on pourrait faire longtemps là, sur cette anecdote qui n'en est pas une. Et je pense que c'est un petit peu trop long pour expliquer sans trop simplifier et sans rentrer dans la caricature, mais ça s'est très mal passé.
Bon, écoute, on continuera de le suivre. Enfin, effectivement, je trouve ça très intéressant. Alors, un truc qui peut être un petit peu difficile, c'est qu'évidemment, on est très loin d'un fonctionnement comme on peut le connaître, bah, par exemple en France. Hein, c'est vrai que les élections, c'est plus complexe, mais c'est pas inaccessible. Et je vous invite à vous plonger. Je vous ferai part de quelques éléments aussi dans les bonus. Je vous avais déjà parlé de Washington D.C.
On écoute tous Washington D.C.
Qui,
moi
qui
aussi.
Est très 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 bon, je trouve, qui est vraiment extrêmement bien fait sur la forme et qui est riche en fond. Et d'ailleurs, il parlait des caucus, effectivement. Peut-être un dernier mot, justement, plus lié à l'actualité, actuellement, ce qui se passe avec Donald Trump, Guillaume.
Oui, Facebook et Donald Trump. Facebook a toujours fort à faire avec sa plateforme, hein, ses 2,5 milliards d'utilisateurs, ses milliards de tentatives de comptes de spam, et Donald Trump aussi, dont le dernier fait d'armes est une campagne de pub politique déguisée en recensement officiel. Donc c'est, voilà, même sur Facebook, c'est interdit de se faire passer pour une campagne officielle, donc ça a été mis en ligne. Voilà. Bon, Facebook s'équipe d'outils de plus en plus sophistiqués, hein, pour éviter les faux comptes. Donc ils ont un truc de machine learning qui leur a permis de virer 6,6 milliards de faux comptes l'an dernier. L'outil est capable d'analyser des trucs vraiment, vraiment pointus. Donc il analyse le compte, les profils, les interactions aussi pour déterminer si c'est un humain derrière. Il va même jusqu'à analyser le comportement des amis du compte en question. Donc ils appellent ça le Deep Entity Classification. Et il peut y avoir des dizaines de milliers de caractéristiques par compte. C'est comme du machine learning. On ne sait pas exactement comment ça marche. Et dans ce cas, c'est un avantage, puisque berner un algo qu'on connaît, ou disons qu'on peut deviner, c'est plus simple qu'un algo qui se programme tout seul et tu sais pas trop comment. Donc voilà, 6,6 milliards de comptes, c'est monstrueux, les tentatives sont continuelles apparemment, puisque 6,6 milliards, ça veut juste dire, voilà, c'est des vagues comme ça qui essayent, ils sont virés, ils réessayent, etc., pendant toute l'année. Et donc les spammeurs deviennent de plus en plus finaux, l'ingénieur interviewé sur ZDNet reconnaît que leurs adversaires sont de plus en plus sophistiqués, c'est une vraie course à l'armement. Et puis bon, pour en finir avec Facebook, il y a des chercheurs de NYU qui se sont penchés quand même sur la transparence promise par Facebook sur les pubs politiques. Puisque bon, ils abscadent les pubs politiques et tout ça, ils les contrôlent pas, mais il faut quand même qu'il y ait marqué qui la finance. Donc ils ont déclaré, on doit déclarer qui finance ces trucs-là, ça doit être marqué bien clairement. Bon, les résultats sont pas super brillants, hein, puisque durant la période d'étude, 55% des pubs n'identifiaient pas correctement leur source. C'est-à-dire qu'il y avait une source, mais que c'était pas la bonne, quoi. Donc Facebook est aussi très lent à virer une campagne de pub problématique, hein, 210 jours, soit souvent plus que la durée de vie de la campagne.
C'est long, 210 jours, oui.
Donc il est apparemment très simple de contourner les l'exigence de transparence de Facebook. Bon, à son crédit, il y a 45% d'annonces qui étaient conformes, hein. Et surtout, l'étude a été possible, ce qui est une preuve de bonne volonté, on va dire, même si la marge de progression est, on va le dire, importante.
Ça clôt un petit peu cette rubrique autour de du traitement de l'information sur les médias technologiques. Ça donne un petit peu le pouls de pourquoi est-ce qu'il faut suivre la tech et quels sont un peu les impacts dans la vie au quotidien et dans les grands enjeux de société. On continuera bien évidemment à en parler, mais tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la rubrique en vrac. On va commencer par ce qui devrait être un enseignement, en fait, c'est une entreprise, donc le groupe de lingerie Lys Charmel, qui est basé à Lyon, qui a été victime d'une attaque par ransomware, donc un logiciel qui a chiffré toutes les données de l'entreprise et qui demandait de l'argent en échange. Le groupe a été complètement paralysé. Ils sont encore là à l'heure actuelle complètement bloqués et ils se retrouvent un peu en redressement judiciaire. Je pense que ça devrait servir d'enseignement à pas mal d'entreprises sur les enjeux de ce que ça peut représenter. Alors, je ne sais pas s'ils avaient un environnement informatique particulièrement ancien ou défaillant, mais enfin bon, ça devrait servir de signal d'alarme, je pense.
Tu sais que le pire, c'est que les derniers ransomware, non seulement ils te bloquent en chiffres en tout, mais en plus, ils recherchent les sauvegardes. Il y a les derniers, là, c'est Maze ou Doppelpaymer, ils recherchent les sauvegardes pour les effacer ou les divulguer, même sur Internet, petit à petit, si tu payes pas. Ils recherchent les backups locaux s'ils sont disponibles, et ils recherchent même les backups cloud. Donc c'est assez incroyable. Il y a une entreprise qui a reçu par email ses identifiants sur un site de backup connu là, pour leur dire votre backup il est aussi entre nos mains, donc maintenant vous payez ou c'est vous qui voyez, quoi. Donc il faut vraiment si vous êtes paranoïaque, désormais vous êtes recherché comme gestionnaire IT parce que c'est devenu une véritable qualité, quoi.
C'est quoi d'ailleurs l'enseignement par excellence, mise à jour, protection de base, c'est les enseignements classiques?
Bah, oui, bah il faut.
Plus loin que ça, en fait, c'est tout un système, parce que si on prend l'exemple de Lys Charmel, c'est pas une entreprise qui techniquement dépend de l'informatique. ils conçoivent et ils distribuent de la lingerie. Alors évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, l'informatique c'est indispensable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas au cœur de leur production. Ils sont censés avoir beaucoup de papier parce que de toute façon, la loi exige beaucoup de papier. Leur compta, ils sont censés pouvoir la retrouver, etc. Normalement, dans une entreprise à peu près bien organisée, ça aurait été des millions d'euros de perdus. Mais t'es pas censé atterrir en redressement judiciaire parce que t'as plus d'ordinateur qui fonctionne si ton métier c'est pas directement lié à de l'informatique. Donc on a une entreprise que, enfin tu vois, en termes d'enseignement, il faut toujours avoir plusieurs méthodes de faire quelque chose, et ça vaut pour la production comme pour l'administration. Et quand on dit plusieurs méthodes, des fois en informatique, c'est avoir les backups, avoir le cloud et avoir ses données en double, en triple, avec de la redondance, etc. Mais des fois, c'est aussi des trucs plus simples, c'est d'avoir aussi toujours ton papier et de l'avoir bien organisé, pas de devoir descendre aux archives que c'est Gaston Lagaffe qui s'en occupe, quoi.
C'est marrant, j'aurais pas en tête cette reco, mais mais peut-être que c'est un bon rappel, effectivement, ouais. C'est que le papier n'est pas...
Faut que ton système, il marche, de deux façons différentes. Et personne n'a dit que la deuxième façon, elle devait être informatique.
Effectivement. En tout cas, ça montre à quel point ces menaces peuvent avoir de très très lourds impacts sur des sociétés comme celle-ci. Alors, d'autres menaces qui peuvent faire un petit peu peur, ce sont les bugs des puces Intel, Guillaume.
Oui, ça fait les gros titres partout. Hein. C'est une faille Intel qui brise la chaîne de confiance d'un nombre énorme de machines, puisque la plupart des puces en circulation depuis 5 ans à peu près. Et bon, alors voilà. En gros, est-ce que je dois faire brûler mon PC immédiatement,
oui.
Avant que ça empire,
oui.
que ça soit le chaos total? Non, quand même pas, pas du tout. Alors déjà, où se situe cette faille? Qu'en fait, elle se situe pas dans le processeur du tout. Si vous avez un ordinateur basé sur Intel, ben vous avez un petit ordinateur dans votre ordinateur. Son petit nom, c'est CSME, c'est Converged Security Management Engine, ou plus simplement ME, Management Engine, hein, c'est quand même plus simple. Et il est totalement autonome, ce truc. Il y a un mini-processeur dedans, en fait, c'est un minuscule 486. C'est le même que celui sorti en 89. Il fait tourner un petit système Unix qui s'appelle MinX3, qui a été créé par, d'ailleurs, le professeur Andrew Tannenbaum, qui, au passage, n'a jamais été crédité pour ça par Intel. Enfin, bon, passons. Oh. Il est sur la carte mère, hein, physiquement. Il est intégré d'ailleurs en off-bridge en général. Donc, c'est une grosse puce qui relie le CPU avec différents bus les plus rapides, donc la RAM, le PCI Express, etc. Donc, il n'est pas du tout dans le processeur principal. Il n'en a pas besoin d'ailleurs même de lui en général. Hein. Donc, c'est un sous-système qui est toujours en fonctionnement, même quand ta machine est éteinte, pourvu qu'elle soit reliée au jus, hein, à la prise. Donc, tu ne le vois jamais, mais c'est une sorte de concierge hyper discret de votre machine. Alors, qu'est-ce qu'il fout là? Il fournit un certain nombre de services qui ont des noms complètement imbitables, comme AMT, c'est Active Management Technology, ou ICC, Integrated Cloud Controller, ou alors QST, Quiet System Technology, ou Intel Bookguard, Serial Over LAN, etc., etc. Bon. Et comme un vrai concierge, il paye pas de mine, mais il est très puissant. En fait, il a tout le contrôle sur l'immeuble. Tu vois, donc il permet par exemple de gérer la machine à distance. Donc il est possible d'allumer ton PC via le réseau, et même de réinstaller complètement le système d'exploitation sans toucher physiquement la machine.
C'est à lui qu'on fait appel avec les appels de type Wake Online, c'est ça, non?
C'est le chipset qui répond quand tu fais un Wake Online de toute façon, mais c'est vrai que c'est lui qui gère l'horloge aussi, par exemple, donc le ventilateur. C'est lui qui s'occupe de booter accessoirement le système via Secure Boot. C'est lui qui gère les clés cryptographiques qui sont utilisées pour crypter les disques durs via BitLocker. Et du coup, c'est aussi par lui que passe la gestion de certains DRM. Donc si tu peux regarder Netflix, ça peut être lui aussi qui s'en occupe. Donc ME, Management Engine, là, c'est un système qui est complètement opaque et à peu près omnipotent sur ta machine. C'est un truc qui ressemble quand même pas mal à une backdoor potentielle, d'ailleurs, qui n'a pas plu à son introduction en 2008, à tel point que certains fabricants, hein, comme Purism ou même Dell, le désactivent partiellement sur leur machine en utilisant un hack non officiel, puisque normalement, il ne doit pas pouvoir être désactivé. Et donc Intel maintient le secret sur le détail du fonctionnement de ce machin de truc là, hein, puisqu'avec un tel pouvoir, il est évident que la recherche de ces vulnérabilités, c'est un sport de haut niveau, quoi. Et il y en a eu avant déjà, hein, en 2017, presque 10 ans de chipsets avaient été découverts vulnérables via AMT, le système de gestion à distance, et il y en a bien d'autres. Il y a même un petit rootkit pour certains chipsets. Et aujourd'hui, c'est Positive Technology qui est spécialisé sur le sujet. Hein. C'est eux, je crois, qui avaient documenté l'usage de Minix dans le ME. Donc, ils annoncent cette fois-ci une autre faille qui touche le démarrage du sous-système. Donc le, ce sous-système, il a sa propre RAM, il a son propre système de protection mémoire, comme ton PC en fait, hein, qui a un système de protection mémoire aussi, qui met en place au boot, donc pour éviter que n'importe qui écrive n'importe où. Le truc, c'est qu'au démarrage, le mini CPU ne le met pas en place tout de suite. Donc il existe donc une mini fenêtre pendant laquelle, si tu envoies des données au bon moment, au bon endroit, elles seront conservées, et si c'est du code, il sera exécuté avec le niveau de privilège du Management Engine, c'est-à-dire Dieu, puisque tu as un niveau de privilège qui est supérieur au système d'exploitation. Donc le ME peut réinstaller l'OS à sa guise. Le ME, c'est Chuck Norris dans ton PC. Hein. On peut tout faire. Donc, en théorie, tu peux, à partir de là, booter n'importe quoi, avoir accès à toutes les clés crypto de la machine,
du coup.
Invalider les DRM, etc. etc. Enfin, pour les clés crypto, il faudra quand même d'abord extraire la master key, hein, comme à Zelda, puisque c'est sur celle-là que reposent toutes les autres. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour les hackers de haut niveau qui vont se lancer dedans, qu'elle est commune à toute une génération de cartes mères. Donc, en plus, il y a une master key pour toute une série de chipsets. Et pour couronner le tout, cette manière de démarrer, elle est hardcodée dans la room, la boot ROM, le BIOS en gros du ME. Elle est impossible à modifier. Donc en théorie, c'est une vulnérabilité assez critique. Et bon, en pratique, faut pas trop paniquer parce que bon, sniper la SRAM du sous-système au bon moment, c'est pas facile. Déjà, les détails techniques n'ont pas encore été révélés, publiés. Ensuite, il faudra très certainement un accès physique à l'ordinateur, voire un accès physique à la carte mère éventuellement. Donc Intel a déjà essayé de colmater un petit peu en empêchant les transferts mémoire dans certaines conditions. Donc il va continuer. Et bon, honnêtement, si un hacker a ce niveau d'intimité avec sa machine, tu vois, qu'il l'a avec lui, qu'il l'a contre lui, qu'il peut lui ouvrir le bide et le tripoter dedans, je pense qu'il peut avoir recours à des techniques moins compliquées pour récupérer tes données. Hein. Donc, en théorie, c'est une grosse faille. En pratique, je sais pas à quel point elle sera utilisée aussi souvent que ça, vu les contraintes qu'elle aura. Mais bon, il faut quand même évidemment y faire attention et mettre à jour, si possible.
J'éteins le briquet, alors je flambe pas toutes les machines chez moi. Super. Un petit mot aussi sur un angle, encore une fois, un peu politique en France, puisque c'est le statut des chauffeurs Uber qui a été annoncé comme fictif selon la Cour de cassation, Guillaume.
Oui, alors je sais pas si tu te souviens, on avait discuté de ça aussi en Californie. En Californie, Uber avait pas passé le test AB5, qui donc était un test pour savoir si la personne qui était employée était une employée ou un indépendant. Donc en gros, il y avait trop de liens de dépendance entre Uber et ses chauffeurs. C'est à peu près la même chose qui s'est passée en France. Donc c'est la Cour de cassation, parce qu'en fait, il y a un procès qui avait lieu entre un chauffeur et Uber, qui avait déjà, je sais plus, je crois que c'était en 2017, voilà, en 2017. Et donc ce chauffeur contestait sa nature d'indépendant et la Cour de cassation vient de décider que clairement c'était une qualité d'indépendant qui était fictive, puisque quand tu as les chauffeurs Uber ne constituent pas leur clientèle, ils sont pas libres de fixer les tarifs, en gros ils sont beaucoup trop dépendants d'Uber pour être qualifiés d'indépendants, et donc ça sous-entend qu'ils se sont désemployés, ce qui change complètement le business model d'Uber. Ça le met complètement en danger. En France aussi, donc oui, c'est à peu près la même chose qu'en Californie. Je suppose qu'Uber va encore se défendre, mais c'est mal parti, ça pourrait changer énormément de trucs pour les VTC, quoi.
Bon, ça revient à une espèce de norme ou de réalité, je sais pas, une prise de conscience, on va dire, sur la situation du salarié.
Je sais pas exactement, mais d'ailleurs, ça dépend des villes. Mais d'ailleurs, Pierre-Olivier, au Québec, il en est quoi? La législation est différente ou...
La législation, elle est assez différente, et pour le moment, Uber fonctionne sur une loi qui est une expérimentation, qui est reconduite depuis 2 ans, et donc qui est très temporaire. Mais essentiellement, la façon dont ça fonctionne, c'est que ce qu'on appelle Uber à Montréal, c'est ce que je crois en France vous appelez UberX, c'est-à-dire que c'est pas des VTC au sens costard cravate et compagnie et de la formation qui va bien, mais des gens n'importe qui. Non, pardon. Alors je rembobine, je recommence. C'est ce que vous appeliez Uber Pop.
Ah oui, d'accord. Ok, oui, très bien.
Voilà. Ouais. Et donc ces gens-là n'ont pas une formation particulière ou quoi que ce soit. Et la loi actuelle, ce qu'elle dit, c'est que pour dédommager les détenteurs de licences de taxi, il y a $1 pour chaque course qui est reversé à un fonds qui va servir éventuellement, si l'expérience Uber se poursuit, à racheter les licences des chauffeurs. Donc c'est un fonctionnement qui est très qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a aux États-Unis dans différentes villes, mais là encore, comme tu le mentionnais, c'est souvent des juridictions municipales. New York, c'est très différent de ce qu'on a à San Francisco, qui est très différent de Montréal, mais voilà, essentiellement c'est la façon dont ça opère à Montréal, et ça fait pas particulièrement comment dire. Ça fait ni vraiment le bonheur du gouvernement, ni vraiment le bonheur de Uber, ni vraiment le bonheur des chauffeurs de taxi. On est dans cette espèce d'entre-trois finalement, et qui est pour le moment un sorte de terrain neutre de compromis qui fonctionne, mais je suis pas sûr que ça soit appelé à rester de cette façon-là. Je pense que on se dirige de plus en plus soit vers une situation à l'allemande, donc où Uber est une centrale de réservation de taxi, tout ce qui est plus ordinaire et normal, et sachant qu'ils ont déjà la fonctionnalité à Montréal, hein, c'est-à-dire que dans l'application Uber on peut commander un Uber ou un taxi. Donc soit on se dirige vers cette solution-là, soit on va se diriger tranquillement, pas vite, vers une solution à la londonienne, hein, donc avec un départ pur et simple de Uber.
Dernier mot pour, c'est intéressant d'avoir ça aussi, ces situations de Uber comme ça dans le monde, ça donne un petit peu le pouls de la façon dont c'est géré. Un dernier mot dans cette rubrique en vrac pour continuer là aussi un petit fil rouge, hein. GeForce Now, Libra, c'est un peu le même combat, il y a des défections semaine après semaine. Cette fois-ci, c'est le studio 2K, Guillaume.
Oui, tu vois, Pierre Olivier, je sais que toi, tu trouves que Stadia c'est une solution qui est pas mal et que GeForce Now aurait pu vraiment te convenir. Donc je suis assez désolé de t'apprendre que malheureusement ils ont encore perdu un éditeur. Donc c'est cette fois c'est 2K, donc c'est Borderlands, BioShock ou Civilization, 2K. Bon, ils ont perdu Interland Game aussi, mais bon, c'était beaucoup plus anecdotique. Ils avaient perdu Bethesda la semaine dernière. Et tout ça, bon bah voilà, hein, donc des accords de licence qui sont pas renouvelés, hein, rien de tout ça évidemment n'est technique, hein, encore une fois, il y a absolument aucun problème pour faire tourner les jeux, c'est juste que maintenant que le service est payant, il va falloir renégocier les contrats. Alors les éditeurs ont le droit, je suppose, de faire ça, parce que les jeux tournent sur des serveurs, donc sous Windows Server et en virtualisation. Je pense que c'est pas forcément le même système de licence. D'ailleurs, je suis pas expert à ça, mais bon. Du coup, c'est vrai que GeForce Now perd momentanément, hein, de son intérêt. Mais c'est vrai que je sais que tu étais intéressé par le truc, toi, Pierre-Olivier.
Oui, et moi, du reste, la taille du catalogue n'est pas vraiment, vraiment déterminante pour moi. Moi, ce que je recherche dans ces services, c'est un truc où j'ai 20 minutes ou 30 minutes pour jouer, et je me mets à jouer immédiatement et j'arrête quand je veux. Par opposition à des services comme Shadow, ou tout simplement une console classique ou un PC classique, où j'allume et puis il y a une fucking mise à jour, et puis une demi-heure après la mise à jour est terminée et puis j'éteins la machine et puis fin de l'histoire. Et d'ailleurs j'ai compris comme un débile que très récemment, je pense hier ou avant-hier, hein, que GeForce Now était sur ce modèle-là où c'est pas nous qui nous occupons de la machine virtuelle. J'avais pas compris, donc je suis très content de comprendre 2 ans après tout le monde que GeForce Now c'est une option pour moi. Mais ouais, pour le moment j'utilise Stadia, et puis c'est ça, finalement la taille du catalogue c'est pas tellement déterminant pour moi, parce que j'ai tellement peu de temps pour jouer que je pourrais jamais jouer à 10 000 jeux. Et alors évidemment, c'est quand même mieux s'il y a des jeux qui m'intéressent, mais s'il y a un jeu qui est juste décent, en fait ça me suffit. Un petit peu comme Netflix suffit à la plupart des gens, alors que le catalogue est vraiment à chier. Mais il suffit qu'il y ait un film qui soit juste un peu au-dessus que de médiocre, et puis voilà, on va le regarder et puis on va quand même avoir du plaisir. Voilà, c'est un peu mon approche de ce genre de plateforme. Donc finalement, tu vois, ils perdent un éditeur, ça fait chier. Mais moi, je suis un bon gros casu quand même, hein.
T'es utilisateur.
De toute façon, ils vont garder Epic. Hein. Epic a réaffirmé son soutien à GeForce Now. Donc, c'est un des rares éditeurs qui a affirmé son soutien au service sans contrepartie, on va dire. Parce que, on va pas se mentir, c'est quand même un peu dégueu, quoi. Les mecs étaient là pendant toute la phase de bêta qui a duré 2 ans, tu sais. Et puis, maintenant que c'est payant, c'est les utilisateurs qui trinquent, hein, parce que, globalement, ils ont quand même acheté les jeux, mais ils peuvent pas y jouer juste parce que, voilà, les éditeurs pensent qu'ils devraient avoir une partie du gâteau ou qu'ils pourraient faire eux-mêmes leur propre service de streaming. C'est le cas de Bethesda, je crois, qui a un truc dans le viseur, là, et qui donc veulent pas le partager avec Nvidia. Mais bon, c'est quand même très dommage.
T'es utilisateur encore Google Stadia, Pierre-Olivier?
Ouais, ouais.
Et c'est, alors, tu joues à quoi en ce moment, vite fait?
À quel point je suis un casu, si je connais même pas le nom du jeu. C'est le jeu de course qu'ils ont donné gratos ce mois-ci, Racing quelque chose. Attends.
D'accord.
Je me connecte, je te dis. Mais
tu peux nous dire après, t'en fais pas.
Ça s'appelle Grid, en fait.
Grid. Hein, très bien.
Comme le truc de Nvidia, finalement.
Très bien.
Je joue extrêmement peu. Mais j'avais commencé. C'est pareil, je sais plus le nom, un jeu d'aventure qui est un peu plus une énigme, mais là en ce moment j'ai pas.
Gult, non, c'est pas ça.
Ouais, exact, et que je trouve très bien. C'est juste que comme j'ai le MacBook et que c'est pas super adapté avec le, enfin j'ai pas ma souris ou ni la manette. Bref, en tout cas, ça c'est ma vie. Voilà, 3615 ma vie. Si vous voulez, je vous raconte tous les détails sur Telegram.
Non, mais c'est intéressant, je trouve, parce que c'est une manière d'utiliser. D'utiliser, enfin c'est une manière de jouer en fait qui est intéressante parce qu'elle concerne à mon avis beaucoup plus de monde que ce qu'on imagine.
Bah ouais.
Des gens qui aiment bien jouer mais qui sont pas tellement à fond et puis qui jouent de manière un petit peu casu, jouent de manière casu à des gros jeux parce que c'est quand même des gros jeux.
Bah oui oui, non clairement. Puis j'ai fini 2033 là, Métro, en relativement peu d'heures, mais que j'aurais jamais pu y jouer sur une autre plateforme, tout simplement parce que je l'ai fini à coup de 30-40 minutes de jeu consécutives.
Tu pourrais essayer la Switch, honnêtement, hein, peut-être.
Ouais.
C'est peut-être un peu moins immédiat, je sais pas.
C'est trop Nintendo pour Pierre-Olivier, ça.
Mais il y a les Metro, il y a Metro Redux et tout qui sortent dessus, il y a Witcher, il y a plein de trucs, honnêtement, tu peux, et puis bon, tu peux y jouer aussi hors connexion, c'est ça qui est l'avantage quand même.
Mais c'est vrai que je trouve que la plateforme Stadia, bon du coup GeForce Now par extension, mais Stadia est une plateforme qui peut convenir à plein d'usages. Moi, je sais que par exemple il y a quelques temps, bon avec le recul je l'ai pas fait et je le ferai pas, mais avec le recul j'aurais adoré à l'époque faire Red Dead Redemption 2 puisque j'avais fait le 1 que j'avais adoré avec sa petite extension non zombie là que j'avais vraiment adoré, et j'en étais à me dire quel Xbox d'occasion ou un peu moins cher éventuellement je peux prendre pour jouer juste à ce jeu-là. Finalement, honnêtement, quitte à jouer à un jeu de ce type, peut-être autant prendre un abonnement à Stadia. Je pense que ça peut valoir le coup. On rappelle qu'il faut payer le jeu, hein, malgré tout, mais ça peut être une option sympa. Et je vois aussi un avenir, peut-être, dans la VR. Je me dis, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait pas avoir les casques VR dont les calculs sont faits de manière déportée. Je sais pas s'il y a un acteur aujourd'hui, Guillaume, qui permet ça, mais par exemple, il y a plein de monde qui va vouloir, comme moi, jouer à Alpha.
Alors Shadow aurait dû le proposer en fait.
Ouais, voilà,
ça faisait partie des plans de Shadow.
C'est pas dispo encore. Bon, écoute, on verra, on suivra. On continuera à parler de jeux vidéo. Vous savez qu'on aime bien ça, même si on n'est pas un podcast de jeux vidéo. C'est un sujet qui nous occupe bien. On va passer plutôt au bonus. Pierre-Olivier, pardon, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de cet épisode?
C'est les statistiques qu'on a sur l'épidémie actuelle de Corona. Je trouve ça bien. Je sais que il y a plein de gens qui vont me rentrer dedans en disant ouais, ça fait paniquer les gens, ça donne une sensation
pas,
de
rassure, peut-être aussi parfois, mais, selon l'interprétation.
Oui, effectivement. En tout cas, moi, j'ai apprécié j'apprécie toujours avoir ces chiffres en temps réel. Je trouve que ça donne une mesure presque exacte de comment se diffuse ce genre de virus, et j'aimerais ça qu'on ait la même chose pour la grippe qui, on l'a rappelé, tue plus de gens, mais on a les chiffres que l'année d'après, hein, à chaque fois, et puis qu'on ait aussi pour la gastro, parce que si je peux l'éviter, je vais l'éviter. Je veux dire, oui, si tu me donnes le choix, bon bah qui serais-je pour refuser cette ce don de pouvoir éviter la gastro. Non, mais plus sérieusement, je pense que à la fois sur certains sujets, on a une approche extrêmement hygiéniste, on a peur de tous les microbes, et puis sur certains autres, pour des raisons culturelles, juste parce que ça se fait pas de refuser de faire la bise en pleine saison des rhumes et des grippes et des machins, on va quand même la faire, et puis on se retrouve avec la gastro la semaine d'après. C'est un peu paradoxal, et je pense qu'il y a un peu un juste milieu où on manger des trucs fermentés, c'est pas grave, et c'est très bon, et à l'inverse, ben quand les gens sont malades, et ben gardez vos microbes, les gens,
tu vois, le coronavirus, ça pourrait faire changer un peu les mentalités. Ouais. Aussi, tu vois, en Asie par exemple, c'est parfaitement normal, si t'es malade, mais quelle que soit la maladie,
de mettre
la maladie respiratoire, de mettre un masque, quoi.
D'où les faibles chiffres de Taïwan par exemple. Ils ont eu quoi, 102 cas ou un truc dans le genre. Et c'est vrai, quand tu compares à des pays de même taille, beaucoup plus loin de l'épicentre du phénomène, tu dis ben attendez les gars, ils ont quand même un truc. Pourquoi on fait pas pareil? Ben voilà. Là en l'occurrence, on les a pour ce virus. Ben moi j'aimerais ça qu'on puisse l'avoir pour d'autres trucs. Alors il y avait eu des apps où on signalait qu'on avait la gastro, mais c'est une base volontaire. Il y a pas les services publics de santé qui mettent à jour en temps réel le nombre de patients ou ce genre de choses comme on le fait maintenant pour le coronavirus, une à deux fois par jour selon les pays. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon pas vers la transparence, et que justement plus on est informé de qu'est-ce qui traîne en ce moment, moins on va avoir des tendances hygiénistes, quand justement il y a rien, il se passe rien, et y a rien à craindre.
Allez, on va continuer nos observations pendant le déroulement de cette crise sanitaire, et puis pendant le déroulement de ces mois à venir. Et puis je pense qu'en début 2021, on pourra faire un épisode un peu putaclic, mais peut-être pas tant que ça, avec le top 10 des choses qu'auront changé le coronavirus dans le monde. Allez savoir. Guillaume, en attendant, es-tu venu avec un bonus pour cet épisode?
Oui, alors moi, en ce moment, je regarde, entre midi et deux, souvent d'ailleurs, Saiki Kei, donc c'est un animé, c'est la version animée d'un gag manga, en fait, de Shuichi Aso, sur Netflix. Il y a 3 saisons, c'est des épisodes très très courts, en fait, des épisodes de 5 minutes, qui sont regroupés en épisodes standards d'une vingtaine de minutes, mais c'est un gag manga. Donc l'histoire, en fait, c'est que ça se déroule dans un lycée, avec un groupe de lycéens, et donc le protagoniste principal est un super ultra puissant psy, donc il a des pouvoirs psychiques extrêmement puissants, c'est un peu comme Mob Psycho, en fait, mais sauf que c'est Mob Psycho en gag manga, donc il n'y a pas vraiment de grosse histoire derrière, ou de trucs un peu plus profonds comme dans Mob Psycho, on va dire. C'est vraiment beaucoup plus comme du Yonkoma, quoi. Ça, t'as 5 minutes, t'as un gag, et voilà. Bon, c'est assez débile, tous les persos sont assez, c'est débile, mais c'est assez marrant, et c'est vrai que ça me détend bien, c'est un petit peu anxiogène.
Eh ben écoute, c'est très bien, ça nous donne un petit peu de baume au cœur et de réconfort. Merci beaucoup Guillaume. Alors moi j'ai deux choses qui vont rebondir sur des choses dont on a parlé déjà dans l'épisode. Donc si vous écoutez déjà Washington DC, peut-être que ça vaut le coup vous alliez écouter Trump 2020, qui est un podcast qui parle là aussi des élections américaines, qui est coproduit par Slate. Le podcast c'est plutôt bien fait. On est sur des formats d'un quart d'heure à chaque fois. Moi j'aime bien, et si jamais vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe là-bas aux États-Unis, c'est peut-être un bon moyen avec la pédagogie qui va bien. Et puis alors, on parlait de jeux vidéo, Guillaume, je vais finir par te le demander toutes les semaines, mais as-tu écouté Quête Latérale, le podcast de qualité?
Pas encore, ça va venir.
C'est comme les soutiens Patreon, tu vois, c'est à force de répéter que les gens se sentent concernés, là c'est peut-être pareil. Écoute, je vous invite même tous les deux, Pierre-Olivier et toi Guillaume, à aller écouter Quête Latérale, en particulier le dernier épisode, l'épisode 3 qui est sorti il y a quelques jours, parce qu'il y a une chronique dedans de Lamua qui est, à mon avis, la chronique ultime dans le monde du jeu vidéo qu'il faudrait que vous écoutiez. Je suis sûr, Pierre-Olivier, que ça te ferait rêver compte tenu de ce que tu décrivais comme situation de jeu, puisqu'il décrivait un monde où on aurait, grâce aux abonnements sur le cloud,
les playlists. Vous savez, les playlists qu'on a sur Spotify, sur les services de streaming musicaux, eh ben, on pourrait avoir des playlists de jeux vidéo où, en fait, on serait pas obligé d'avoir forcément les jeux vidéo, mais on pourrait avoir une compilation comme ça de plusieurs moments avec des thématiques différentes. Vraiment, je vous laisse écouter. C'est magnifique et c'est évidemment très bien raconté par la MUA dans le dernier épisode de Quête Latérale, le podcast sur les jeux vidéo, hyper accessible et toujours aussi intéressant. Merci beaucoup Pierre-Olivier de t'être joint à nous pour cet épisode, c'est un grand plaisir de te retrouver. On va faire quelques petits éléments de rappel en cette fin d'émission qui sont évidemment d'actualité aussi, mais d'abord je voudrais vous rappeler qu'on a à votre disposition une newsletter qui part chaque week-end et qui relaie des news tech qui sont qualifiées par Guillaume Poggiaspala avec sa prose habituelle, qui sont des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans le podcast. Dans la newsletter du week-end dernier, Guillaume a parlé par exemple de ressources culturelles qui ont été numérisées, qui ont été mises à votre disposition, de ransomware, comme tu le disais, qui affecte les sauvegardes, du code Konami aussi. Donc vraiment, si vous voulez pas manquer ces infos, allez vous abonner à la newsletter pour les avoir en avant-première, techcafé.fr/newsletter. Et puis, bah, si jamais vous avez envie de lire le contenu de cette newsletter, vous n'êtes pas forcément avide de le recevoir avant tout le monde, vous pouvez vous rendre même sur techcafé.fr, vous défilez tout en bas de la page d'accueil et vous avez les newsletters qui sont mises en ligne sur le site quelques jours après leur parution. Vous avez que l'embarras du choix pour suivre le contenu. Comme je vous le disais en intro, on compte sur vous pour aller jeter un petit coup d'œil sur Patreon, patreon.com/techcafé. Tout est expliqué sur les manières dont vous pouvez nous soutenir dans le cadre de la réalisation de ce podcast. Un petit mot aussi pour vous rappeler une fois de plus qu'il faut mettre à jour le flux en fin de semaine pour découvrir l'épisode de Tech Café Domotique qui arrivera avec Julien du blog Ça sert à quoi qui rejoint l'équipe de Tech Café Domotique de manière un petit peu plus pérenne. Et puis j'en profite aussi pour vous mettre en avant le dernier épisode de ReLife où on a échangé avec l'équipe qui est derrière le podcast 93 jours où il y a une démarche de devenir végétarien en préparant un marathon. Alors en particulier c'était pour préparer le marathon de Paris, pas de chance, il est annulé bien entendu à cause du virus. Malgré tout, la démarche, je pense qu'elle mérite d'être suivie et elle va donner un petit peu d'éléments complémentaires à un documentaire qui s'appelle The Game Changers sur Netflix qui parlait du végétarisme pour les sportifs, sans doute de manière très orientée. Je vous invite évidemment à l'écouter. ReLife, merci beaucoup de votre fidélité. On peut faire un petit tour pour rappeler aux uns et aux autres où est-ce qu'on peut nous retrouver, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Où est-ce qu'on peut échanger avec toi?
Sur Telegram, mais pas trop, comme ça s'est vu d'ailleurs ces derniers jours, malheureusement.
Sur Telegram, de manière sporadique.
Exactement, sporadique. Voilà, tout à fait. Toi, tu peux me retrouver sur Switch, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais oui, non, mais essayez quand même. Ça marche des fois.
Merci Guillaume. Pierre-Olivier, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Moi, Telegram, ça marche bien. C'est là où je viens râler.
C'est là où tu viens râler et répondre aux râleries des autres aussi.
C'est vrai.
Merci beaucoup de votre présence et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Bye. Ciao.